France Inter.
Aujourd'hui, une journée quotidienne à la préhistoire, racontée par
Sophie Debaune, préhistorienne, professeure à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et chercheure au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité à Nanterre.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le jour se lève sur la vallée, le soleil d'automne éclaire les tentes dressées au-dessus de la rivière, l'air est vif, la nuit a été froide et déjà un grand-père s'affaire à ranimer le feu avec quelques branches de genévrier. Autour de lui, trois générations s'étirent, emmitouflées dans des pots de renne. Nous sommes au Paléolithique supérieur, il y a environ 18 000 ans, en pleine période magdalénienne, l'un des ultimes épisodes glacés de notre histoire. Les forêts n'existent pas encore ici, le paysage est une grande steppe piquetée d'armoises et de bouleaux rabougris. C'est le temps des rennes, des chevaux et encore parfois des mammouths. 6 tentes forment le campement d'hiver. Chaque tente abrite une famille entière, des anciens, des adultes et des enfants, réunis pour la mauvaise saison. Les femmes vont chercher de l'eau à la rivière. Certaines portent sur le dos un panier tressé dans lequel dort un bébé emmitouflé de fourrure. Les hommes, eux, taillent le silex à la lueur du feu. Leurs gestes sont précis, rapides, presque musicaux. À quelques pas, des adolescents cessaient à la pêche ou à la fabrication d'armes. Et plus loin, des grands-mères robustes écrasent des plantes avec des pilons de pierre, tressent des cordelettes, enseignent aux plus jeunes comment tresser, coudre et lier. Tout autour, la vie bruisse. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le feu, les outils, les pots, les réserves, tout témoigne d'un savoir collectif accumulé et transmis depuis des générations. Ces homo sapiens, déjà très proches de nous, sont artistes, inventeurs, parents, pêcheurs, conteurs ou organisateurs. Quand le soir tombe, les flammes dansent à l'entrée des tentes, on partage la viande de lièvre, le poisson séché, les racines et les fruits d'automne. Les enfants s'endorment blottis contre les chiens pendant que les anciens racontent les mammouths d'autrefois et le géant de la mer. Une journée s'achève au temps de la préhistoire et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Ah, Pierre, c'est bien passé, ils ont été sages?
Oui, très gentils, hein. Ils sont lancés des cailloux, comme d'habitude.
Oh, c'est bien.
Bon,
Attendez, il en manque un. Amour, ce matin, les enfants, on n'en avait pas 12.
Ah, mais oui, en effet. Ah, mais Pierre s'est fait bouffer par une bête sauvage pendant qu'on cueillait des feuilles.
Ah, bah c'est ça, on en avait 12. Allez, les enfants, on va se coucher, allez, hop. C'est parti.
Extrait d'Alain Chabat en 2004. Bonjour Sophie Debaune.
Bonjour.
Vous qui êtes préhistorienne et professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3 et chercheuse au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité à Nanterre. Est-ce que vous l'avez vu ce film d'ailleurs ou pas?
Non.
Vous l'avez pas vu?
Non.
Ah ben ça alors. Il faut quand même aller voir des films comme ça. Ça peut être intéressant en tant que préhistorienne. Ça vous a pas attiré du tout?
Du tout.
Non. Pourquoi?
Oh. Généralement, la préhistoire qu'on montre dans les films de fiction ou même dans les romans, c'est souvent très fantasmé.
Oui.
Ça correspond pas vraiment aux données archéologiques.
Oui.
Mais ceci étant, j'ai pas vu, donc ne sais pas si c'est le cas.
D'ailleurs, le titre qu'est-ce que ça nous dit du langage des hommes ou des femmes préhistoriques?
C'est déjà quelque chose qui m'agace beaucoup. Ce sont ces noms qu'on donne, alors qu'on sait qu'ils avaient un langage articulé comme nous.
Ouais.
Ils avaient des interactions langagières certainement sophistiquées.
Mm-hmm.
Donc, leur donner des noms comme ça qui sont gutturaux, des sons gutturaux, plus proches des singes que de nous, je trouve ça un petit peu absurde. C'est compliqué de donner des noms aux personnages, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas fait.
Enfin, l'absurde, là, c'est totalement assumé par Alain Chabat, évidemment.
Oui, bien sûr.
Dans ce film, vous publiez Une journée au temps de la préhistoire. C'est aux éditions Erol, un ouvrage qui, comme son nom l'indique, nous permet d'assister à des scènes quotidiennes, donc du lever du jour au coucher du soleil, pour comprendre quel était le mode de vie des populations ayant occupé l'Europe il y a près de 18 000 ans.
C'est ça. Pourquoi j'ai choisi un créneau entre 16 et 18 000 ans.
Pourquoi justement?
Pourquoi ce créneau? Parce que le Paléolithique supérieur dure quand même 30 000 ans au moins. Et il y a des variations de température, selon les régions, c'est pas le même environnement. Il y a aussi des inventions techniques, il y a des choses qui changent entre 40 000 et moins 12 000. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi un créneau qui m'a paru intéressant, parce que c'est une période qui est au Magdalénien, ce qu'on appelle le Magdalénien, une période où tout ce dont je voulais parler était déjà inventé, les propulseurs, les harpons, etc. Et puis j'ai choisi un moment de l'année qui est intéressant aussi, c'est l'automne. Et à cette époque-là, on peut supposer que, en tout cas dans certaines régions, les gens se réunissaient. Les gens vivaient un petit peu disséminés le reste de l'année, et à la mauvaise saison, ils se regroupaient. Un peu à la manière de ce qui a été fait dans certaines populations du Grand Nord. On sait que ces regroupements ont existé et ont été relatés par des ethnologues.
Justement, est-ce que vous êtes servi des sociétés plus modernes aussi pour imaginer ce récit préhistorique ?
Alors, on est forcément un peu influencé. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est matériel, que ce soit les techniques, tout ce qu'on peut savoir là-dessus, je me suis évidemment fondée sur les données archéologiques. Mais par contre, il y a des choses qui n'ont laissé aucune trace. Justement, on en parlait à l'instant, les interactions langagières, ou bien les croyances, tout ça, on ne sait absolument pas. Ou qu'est-ce qui se racontait le soir au coin du feu, on n'en sait rien. Et donc là, j'ai un petit peu fait appel, d'une part, à mon imagination, et ça, je m'en explique dans l'introduction du livre, aussi pour évoquer tout ce qui ne se conserve pas aussi, les matières périssables, les paniers, tout ce qui est des pots, etc. Et puis j'ai fait appel à l'ethnographie en essayant de rester toujours dans le vraisemblable. Et puis j'ai fait relire mon texte après par un anthropologue qui a regardé, qui a lu avec attention pour savoir s'il y avait rien d'aberrant d'après sa lecture, ça allait.
À quel endroit se passe cette journée automnale à la préhistoire,
Alors, Sophie ce n'est pas un site qui existe, ce n'est pas un site précis. J'ai situé ça dans le Grand Sud-Ouest, donc ça laisse une certaine marge.
Le Grand Sud-Ouest de la France ?
De la France, de la France, où il y a des vallées encaissées, avec des microclimats dans ces vallées encaissées. Mais si on monte sur le plateau, on peut avoir des plateaux, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, des plateaux steppiques balayés par les vents, avec éventuellement des troupeaux d'herbivores. Ouais. Et donc je voulais qu'il y ait les deux aspects. C'est-à-dire, d'une part, ces paysages steppiques, que les hommes, s'ils avaient le choix, n'occupaient pas forcément. Et puis ces vallées encaissées, dans lesquels ils s'installaient, ce qui les empêchait pas d'aller chasser des troupeaux sur le plateau.
Un campement imaginé, donc, qui se trouve à proximité d'une rivière.
Voilà. Oui. Alors, les gens étaient plus intelligents que nous, d'ailleurs, parce qu'ils ne s'installaient pas au niveau de la rivière.
À cause des crues ?
À cause des crues, ouais. Bien sûr. Ils s'installaient un peu en surplomb, généralement, ce qu'on appelle une position en fauteuil. Ils s'installaient sur une petite terrasse un petit peu en surplomb. Du coup, il n'y avait pas de problème de crues. Et en plus, ça permettait de voir le gibier de loin, le gibier qui venait se rassasier.
Ouais. Comment est-ce que vous avez décidé quels objets il fallait intégrer dans ce récit et pourquoi en avoir fait aussi presque des héros de cette journée préhistorique aussi ?
Alors, ça, c'est un peu l'esprit de la collection. De toute façon, c'était une demande de l'éditeur de partir de 50 objets. Donc ça, c'est, à la limite, c'était le but de l'exercice. Mais j'ai choisi des objets qui me paraissaient représentatifs de tous les aspects de la vie quotidienne.
Par exemple, donnez-nous deux ou trois objets typiques de cette époque-là.
Alors, j'ai essayé de choisir des objets peu connus et peu représentés. Par exemple, les cordages. On a un petit fragment de corde de 12 cm qui a été retrouvé à Lascaux. Ou plus exactement, son empreinte dans l'argile avec des fibres végétales qui sont restées imprimées dans l'argile. Et ça, c'est un objet, à ma connaissance, quasiment unique pour cette période, pour le Paléolithique supérieur. Donc ça, je me suis débrouillée pour obtenir une photo. Donc à chaque fois, j'ai essayé de choisir des objets bien représentatifs, mais pas ces objets qu'on voit partout et qu'on voit toujours les mêmes.
C'est-à-dire les silex, par exemple ?
Alors, les silex, c'est un peu incontournable, donc j'ai quand même mis des photos de silex.
Oui, il y en a, oui.
Mais il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. C'est pas ce que j'ai privilégié. C'est vrai que ce sont les objets qui se conservent le mieux, qui apportent beaucoup d'informations, mais du coup, à force de se pencher sur les silex, on ne voit plus le reste. Mm. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, en fait, qui nous informent. Ouais. Sur...
Bon, on va en parler. On a le temps, de toute façon, pour pouvoir décrire quelques-uns de ces objets qui rentrent donc, évidemment, dans cette vie quotidienne de nos ancêtres préhistoriques, récents j'allais dire quand même, parce que 18 000 ans, d'abord c'est Homo sapiens,
oui, alors ce sont
c'est pas une histoire ancienne.
Ce sont des Homo sapiens comme nous, C'est-à-dire qu'ils sont un tout petit peu différents, ils ont des os un petit peu épais, une ossature un peu plus lourde que la nôtre,
et vous le disiez,
ils sont plus grands que nous.
C'est la période de Lascaux, en fait, c'est ça ? C'est...
Oui, à peu près.
C'est ces Homo sapiens qui ont
Lascaux,
pu
21 000, donc
dessiner
c'est,
sur ces parois rocheuses.
Près, oui. Mais les Homo sapiens sont arrivés en Europe il y a à peu près 40 à 50 000 ans. Et donc, ce sont des Homo sapiens comme nous. Et les Homo sapiens existent depuis, en Afrique depuis plus de 300 000 ans, même s'ils étaient peut-être un petit peu différents de nous. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Hein. Donc, ces Homo sapiens qui ont vécu donc, quelque part dans le sud-ouest de la France il y a 18 à 16 000 ans, nous ressemblaient beaucoup, en fait. Et non seulement du point de vue biologique, mais aussi du point de vue, probablement du point de vue cognitif. Hein. Ils avaient exactement les mêmes aires cérébrales que nous. Et on peut dire qu'ils rentrent dans la variabilité humaine actuelle.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que, par exemple, un Européen, entre un Européen et un Papou, il y a des différences, mais il n'y a pas plus de différences qu'entre un Africain et un Homo sapiens d'il y a 18 000 ans.
Sophie de Bonne, vous dites avoir inversé la perspective. Donc, ce n'est plus l'archéologie qui observe, mais les humains préhistoriques eux-mêmes qui vivent là, sous nos yeux. Qu'est-ce que ça change pour le lecteur, en fait ?
Alors, déjà, pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai interversé. J'ai modifié mes phrases. Hein. Au lieu de parler au passif, je parle à l'actif. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qu'on voit interagir avec la nature, entre eux, avec les objets. Et ça, c'est un exercice que j'ai trouvé très intéressant. Oui. De faire. Mais il fallait éviter les généralités. C'est un peu pour ça que j'ai cadré au début, oui. En expliquant...
Alors, les généralités, justement, ou les stéréotypes, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand on parle de la préhistoire, oui. Et il y a visiblement dans votre ouvrage une volonté d'échapper à des visions très stéréotypées, en particulier de la répartition sexuée des tâches, hein, avec les hommes qui chassent et les femmes qui cueillent.
C'est ça.
Hein. Ça, c'était vraiment une préoccupation pour vous.
Ah oui, oui.
Et on le ressent bien dans votre livre.
C'était un des buts. Et je voulais montrer qu'en fait, ce sont des communautés qui, vraisemblablement, dans lesquelles tout le monde intervenait. Mm-hmm. Et les gens étaient complémentaires. Et c'est pas forcément... Alors, il devait y avoir, bien sûr, une répartition des tâches, mais pas forcément entre hommes et femmes. Ça peut être aussi entre classes d'âge. Et du coup, je fais intervenir aussi les grands-mères, parce
Absolument.
Qu'on sait qu'il y a beaucoup de sociétés où les grands-mères sont très importantes. Ben, il faut savoir que dans l'espèce, les espèces animales qui existent, les humains sont très spéciaux, puisque c'est une des très rares espèces où les femmes continuent à vivre après avoir passé l'âge de la procréation, après la ménopause. Donc c'est le cas chez les cétacés, et c'est le cas chez les hyènes, mais il y a très peu d'espèces pour lesquelles c'est le cas. Et du coup, pourquoi ? Quel est l'intérêt, je dirais, évolutif que les femmes continuent à exister ? Eh bien, parce qu'elles transmettent aux générations. D'abord, elles peuvent participer à la vie de la communauté, elles participent aux tâches vivrières, mais aussi elles peuvent s'occuper des jeunes enfants, et elles peuvent transmettre les connaissances, de même que les hommes, d'ailleurs. Mais bon, pour les hommes, le problème ne se pose pas, le problème de la procréation.
Le rôle des grands-mères, Françoise Héritier en avait largement parlé, hein, évidemment, dans les sociétés humaines. Au sujet des femmes, on va écouter cet extrait de National Geographic, c'était en 2002.
Alors voilà, voici l'os coxal gauche. Là, vous avez l'articulation avec le fémur. Cette échancrure, vous voyez, elle fait un angle ouvert. Vous prenez les deux bords et vous avez un angle plus ouvert. Chez l'homme, ça sera plus fermé. Alors à ce moment-là, on est obligé d'admettre que nous nous trouvions en face d'un squelette certainement féminin.
Les préhistoriens du 19e siècle se sont donc trompés. L'homme de menton devient la dame du cavillon. Une princesse, une chamane peut-être. Enterrée avec un soin infini par son clan, symbole de puissance, les femmes préhistoriques n'étaient donc pas toutes soumises et dominées. Et la science d'aujourd'hui va permettre de faire des découvertes encore plus incroyables.
Voilà, 2022 pour cet extrait de National Geographic avec la dame de Cavaillon dont on pensait, Sophie de Bonne, qu'elle était un homme.
C'est ça. Alors ce n'est pas le seul cas. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, le squelette des Homo sapiens de cette époque était très grand et très solide, très costaud. Mm-hmm. Et les femmes étaient également très grandes et robustes. Elles avaient un squelette robuste. Et il y avait relativement peu de dimorphisme sexuel par rapport à aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des squelettes, quand on les a découverts au 19e siècle ou au début du 20e siècle, qui ont été tout naturellement considérés comme des squelettes humains, d'autant que parfois on trouvait de la parure, on trouvait sur le fameux homme de menton, une sorte de diadème avec des coquillages qui ont été cousus sur le diadème. Il a des silex avec lui, il a des armes. Donc c'était forcément un grand chef, quoi.
Ouais.
Voilà. Et maintenant, alors avec dans le cas de la Dame de Cavillon, l'homme de menton rebaptisé la Dame de Cavillon, ça a été des analyses des eaux du bassin qui sont plus larges. Oui. Chez la femme, mais maintenant on a recours à l'ADN aussi, à la paléogénétique, qui permet d'affirmer que certains squelettes sont féminins
et d'éviter des erreurs grossières.
Voilà.
Alors ça commence comment une journée à la préhistoire, Sophie Daubonne? C'est quoi le réveil matin, le petit déj? Qu'est-ce qui se passe chez nos ancêtres Homo sapiens?
Alors j'ai imaginé qu'ils vivaient avec la lumière du jour. Comme dans beaucoup de sociétés sans électricité, on se réveille avec le soleil. Voilà,
donc ça
on
dépend,
se lève.
Ouais.
Donc ça, c'est ce que je
ça
pense.
Ça dépend des saisons.
Pas, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation à avoir. Et puis ensuite, les gens se lèvent tout doucement, ils se réveillent. Et puis chacun va tout doucement s'activer. Et voilà.
Ouais. Est-ce qu'il y a un petit déjeuner ou pas?
Alors, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut supposer qu'ils faisaient au moins un repas par jour. Au minimum, ça c'est vital. C'est un peu le choix que j'ai fait. C'est-à-dire, ils grignotent un petit peu en se réveillant, parce que bon, quand même, on a le ventre vide.
Ouais.
Et puis après, j'ai imaginé quand même un repas en milieu de journée qui les réunisse. Mais là, évidemment, on ne peut pas savoir combien de repas ils prenaient par jour, si vraiment ils se réunissaient tous à ce moment-là, et à quelle heure. Ça reste relativement hypothétique.
Allez, on va poursuivre cette journée à la préhistoire avec vous dans un instant. Et puis, vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au carré et sur nos réseaux sociaux.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Le sujet, en fait, c'est pas tellement l'évolution, la sélection naturelle, tout ça. Ok, on est au paléolithique, ok, on vit dans des grottes et on s'habille en peau de bête, mais franchement, c'est tranquille. Bref, on n'a pas spécialement envie d'évoluer, quoi. Le seul truc chaud, en fait, c'est de convaincre mes parents de me laisser aller à la soirée organisée par la cousine de Raon samedi prochain.
Surtout que ça va être démentiel! Il va y avoir tous les mammifères les plus canons de la préhistoire. On peut juste pas rater ça. Non, mais t'inquiète, tes parents, ils ont l'air un peu coincés du silex, mais au fond, ils sont cool, hein.
Extrait de Silex and the City, le film en 2024 de Jules et Jean-Paul Guigues. Sophie Daubonne, vous qui êtes préhistorienne et qui publiez une journée au temps de la préhistoire. C'est aux éditions Erol. Dans ce récit, on l'a dit, la chasse est une activité majeure, qui d'ailleurs n'était pas forcément seulement exécutée par les hommes. Les femmes aussi chassaient.
C'était pas si majeur que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils mangeaient de la viande, bien sûr, mais c'était pas forcément des gros mangeurs de viande. Et ils complétaient leur alimentation avec beaucoup de végétaux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. On les voit comme les Inuits qui vivent dans le Grand Nord et qui consomment énormément
de
viande parce
qu'ils
n'ont pas le choix.
Ouais.
Pardon, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a très peu de végétation.
Ouais. Reprenez votre souffle, buvez un petit verre d'eau et tout ira bien dans un instant. Et c'est vrai que, Sophie Daubonne, on a tous l'image des hommes préhistoriques qui frottent deux silex pour allumer un feu, d'ailleurs.
Peux revenir sur la viande? Non, en réalité, pendant longtemps, on a eu cette image-là parce qu'on a donné une image un peu particulière à la préhistoire. On a mis, ce sont les premiers préhistoriens, étaient des hommes, et ils ont beaucoup mis en avant la chasse. Mais en réalité, y a beaucoup d'autres activités qui étaient exercées et la chasse n'était qu'une petite partie de l'alimentation.
Enfin. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient d'autre? Beaucoup de végétaux?
Ils mangeaient beaucoup de végétaux, oui. Et alors, si vous voulez, à l'époque, on ne savait pas. On retrouvait des os, des ossements d'animaux, des fragments, des esquilles osseuses. Donc, on pensait qu'ils mangeaient surtout de la viande. Mais maintenant, on a des analyses qu'on peut faire. Par exemple, on analyse l'isotope de l'azote et du carbone dans les os. Et on peut savoir quelle était la part végétale et la part animale.
Dans l'émail des dents,
dans l'alimentation
aussi, on peut le savoir.
Également, oui, et dans la dentine aussi, qui est sous l'émail des dents. Donc, on peut savoir exactement quelle était la proportion. Et également la proportion de produits de la mer, s'ils vivaient à côté au bord de la mer. Voilà. Donc là, on a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas il y a 30, 40, 50 ans.
Alors sur ces idées reçues, justement, sur la façon d'allumer le feu avec des silex, c'est un mythe ça aussi ou pas?
Alors ça aussi, c'est un mythe, parce qu'en fait, vous essayez, ça ne marche pas du tout. Alors, à la rigueur, si vous avez un silex d'un côté et une pyrite de fer de l'autre, ça peut marcher. D'ailleurs, on a retrouvé des briquets comme ça, hein, ouais. entre guillemets, dans des sites néolithiques où, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'Otzi, la momie de l'âge du bronze, bon, bah, elle avait sa pyrite de fer et son silex.
Celui qui était retrouvé dans les glaces des Alpes italiennes.
Hein, voilà, c'est ça, mais qui est beaucoup plus récent. Ouais. Et donc, à partir du néolithique, on sait qu'effectivement, c'était probablement comme ça qu'ils allumaient le feu. Mais en réalité, la technique d'allumage de feu la plus répandue par le monde, dans les sociétés où il n'y a pas de briquet et d'allumettes.
Alors c'est quoi ?
Eh bien, c'est la friction, en fait. La friction de deux morceaux de bois, soit dans un mouvement d'avant en arrière, soit par rotation. Donc on utilise une baguette à section ronde, verticale, et puis une petite planchette sur laquelle on va faire pivoter très très vite, soit en un mouvement donc des mains, soit avec une cordelette. Et on va placer dans la petite cavité, juste au contact des deux bois, on va placer quelque chose de très inflammable, comme de l'étoupe ou du champignon, enfin quelque chose qui va s'enflammer très vite. Et dès qu'il y a de la fumée, on se met à souffler, et ça fait une petite étincelle, et on peut...
Mais ça, cette technique-là que vous nous décrivez, et qui va un peu à l'encontre des idées reçues, c'est une pratique très très ancienne, qui vient même bien avant ces hommes préhistoriques de 18 000 ans.
Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves archéologiques, ou très peu. Ouais. On a retrouvé un ou deux éléments... en bois, exceptionnellement, miraculeusement conservé, qui laisse penser que c'était une technique qui existait anciennement, mais c'est quand même très très difficile archéologiquement de le montrer. C'est une, là, on est dans la supposition.
Ces groupements humains, donc à l'époque, donc 18 000 ans encore, Sophie Debonne, ils vivaient à combien de personnes ? C'était des groupes importants ou pas ?
Alors là, je me suis un petit peu basée sur ce qu'on sait à partir du site de Pincevent, où on a retrouvé un campement avec 11 tentes simultanées qui ont été occupées. Pincevent, qui est en Seine-et-Marne. Mm-hmm. 11 tentes qui ont été occupées simultanément, qui sont à peu près de cette époque-là, d'ailleurs.
Donc ça fait combien de personnes, ça ?
Alors, disons 6 à 8 personnes par tente. Alors, il y a des tentes plus petites, d'autres un peu plus grandes, d'autres doubles. Donc, on peut supposer que dans les tentes un peu plus grandes, il y avait peut-être 3 générations.
Ouais.
Donc, une famille nucléaire, mais avec peut-être 5, 6, 6 personnes. Voilà.
Donc, un petit village, ça fait quoi, 70 ?
Ça fait quelques dizaines de personnes. Ouais, c'est ce que j'ai imaginé donc, dans ce texte, ouais. Quelques dizaines de personnes.
Et alors, ils vivent dans des tentes ? C'est
alors,
ça aussi.
Des tentes ou des yourtes, ou, ouais. Voilà, des structures relativement mobiles.
Parce qu'on a toujours l'idée des grottes dans la tête, mais
en fait,
on n'a jamais vécu dans les grottes.
Et non, on ne vivait pas dans les grottes. Mmh. Par contre, dans les régions karstiques où il y a des grottes et des abris sous roche, les gens vivaient en général à l'entrée, c'est-à-dire ils utilisaient la paroi rocheuse
comme
finalement
abri.
comme fond d'habitation, ouais. Et puis ils la fermaient avec une paroi amovible devant. Et quand ils s'installaient dans les grottes, c'était vraiment à l'entrée de la grotte, dans la partie éclairée, dans la partie chauffée par le soleil aussi.
Ouais.
Parce que vivre dans une grotte, au fond d'une grotte, franchement, il fait sombre, il fait humide. C'est assez désagréable, je ne vois pas qui pourrait avoir cette idée.
C'est pas très confortable.
Il y a très très rares exemples d'installations à l'intérieur des grottes.
Vous rappelez que les chiens partageaient la vie des hommes et des femmes aussi de
alors
l'époque.
Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez peu, parce que pendant très longtemps on a dit que le chien avait été apprivoisé à partir du Mésolithique, hein. C'est-à-dire après le paléolithique, à l'époque de ce qu'on appelle l'Holocène, au moment du réchauffement. Et on s'aperçoit de plus en plus, par des restes osseux de canidés, qu'il y avait très probablement des chiens déjà domestiqués il y a 15 000, voire même bien avant. Il y a 20 000 ans. Alors, la date exacte d'apparition du chien est compliquée parce que parfois, on a des squelettes qui sont difficiles à interpréter. Un peu loup, un peu chien.
Ouais.
On sait que le chien a été domestiqué à partir du loup gris. Hein. Et puis, il y a l'ADN qui nous renseigne là, puisqu'on peut faire des études d'ADN des chiens actuels et des chiens préhistoriques. Et cela permet d'essayer de calculer la date d'apparition de l'ancêtre commun. Et là, on a des dates assez anciennes qui remontent au début du paléolithique supérieur, autour de 35-40 000. Mais pour l'instant, ça reste une question très en cours, en fait.
Sophie Debonne, ces familles-là, qui font partie donc de cette journée que vous avez imaginée au temps de la préhistoire, est-ce qu'elles sont très sédentaires, hein, ou est-ce qu'au contraire, elles bougent beaucoup ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Alors, moi, j'ai choisi le cas de gens qui se regroupent à la mauvaise saison, parce qu'on a effectivement retrouvé des campements. D'une part, je parlais de Pincevent tout à l'heure, qui est peut-être un site de rassemblement. Et puis, d'autre part, dans les Pyrénées. On a des espaces avec énormément de gens qui ont vécu là, et pendant un court laps de temps, pendant quelques mois ou quelques semaines, mais nombreux.
Donc, à l'automne, hein.
Alors, l'automne, là, je me suis un petit peu basée sur ce qu'on savait, finalement, dans le Grand Nord. Mais à Pincevent, effectivement, il se trouve que c'est à l'automne. Mmh. Oui, oui. Alors, c'est le début de la mauvaise saison. On fait des réserves, on commence à faire des réserves pour l'hiver. Et puis, on va peut-être aussi avoir une vie sociale avec des groupes voisins, échanger des biens, échanger des femmes, échanger des techniques à ce moment-là.
Et donc, parmi les activités, on parlait de la chasse tout à l'heure, la cueillette, évidemment, la pêche aussi,
oui.
Très organisée, c'est ce que vous décrivez, presque collective. Est-ce qu'on peut parler d'un savoir technique transmis entre générations à ce sujet-là ou pas?
Oui, mais je crois que ça, on peut étendre cette notion à tout. À tout, pas seulement la pêche, que ce soit les techniques de chasse et puis l'artisanat. Là, je parle beaucoup, je fais une grosse place à l'artisanat.
Ouais.
Parce qu'en fait, il n'y a pas que le silex, il y a toutes les matières dures animales qui se conservent dans certains contextes, elles ne se conservent pas partout. Et donc, on a des objets en ivoire, on a des objets en os, on a des objets en bois de cervidé, très bien conservés. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on retrouve des ateliers de fabrication avec les différentes étapes de travail, depuis l'ébauche jusqu'à l'objet fini ou l'objet qui s'est cassé en cours de fabrication et qu'on a abandonné. Donc ça permet de donner des informations. Et il est évident que toutes ces techniques-là, on ne les réinventait pas à chaque génération. Elles étaient transmises de génération en génération.
Tout ça est très culturel. Hein.
C'est
aussi l'histoire que vous racontez. C'est une sorte de transmission, de culture, de savoir.
Voilà.
Et d'enseignement. Donc, comme par exemple ces cordes fabriquées par une doyenne. Ça, c'est une interprétation de votre part?
Ça, c'est une interprétation.
Ouais.
Ils fabriquaient des cordes, ça, on le sait. Hein, parce que, bon, il y a cette fameuse corde de Lascaux dont je vous ai parlé, mais on suppose que c'est une technique extrêmement ancienne, hein, de tresser soit des fibres végétales, soit des tendons d'animaux,
ouais.
Soit des crins de chevaux. Ça, c'est quelque chose qui existe certainement depuis très longtemps.
Et la fabrication des vêtements, alors, avec quoi on s'habillait à l'époque, parce que tout était fait sur place, évidemment. Hein. On n'allait pas faire appel.
Alors, les vêtements, on imagine toujours les hommes préhistoriques couverts d'une vague peau de bête jetée sur les épaules. Et en fait, non.
Pas à cette époque-là, en tout cas.
Pas à cette époque-là. Peut-être bien avant, hein, quelques dizaines d'années avant.
Mais il y a 18 000 ans, on était bien sapés, c'est ça?
Voilà, on était assez bien sapés. Et là, on a plusieurs éléments indirects pour le dire. Par où commencer? D'abord, on a des aiguilles à chat, à peu près à partir de 23-24 000 ans.
Avec quoi c'est fait?
Alors, les aiguilles à chat, elles étaient faites, soit c'était des petites baguettes qui étaient extraites de bois de cervidé ou d'os, polies, et puis on perçait avec un petit perçoir un chat. Et il y en a qui sont aussi fines que les aiguilles d'aujourd'hui. Hein,
incroyable.
Voilà. Donc, on sait qu'ils cousaient. Et puis on a des représentations aussi, on a quelques représentations, vous savez les fameuses petites statuettes, on a des petites statuettes qui semblent vêtues avec des capuches, en particulier en Sibérie, on a retrouvé des petites statuettes en ivoire avec la capuche dessinée, et puis il y a des traces sur toute la statuette qui pourraient, des espèces de petits triangles qui pourraient être la représentation d'un vêtement. Et donc on a ça, et on a aussi quelques rares sépultures, comme les sépultures de Sungir en Russie, où on a retrouvé d'une part un homme enterré de 35-45 ans, et d'autre part une tombe double avec deux enfants enterrés dans une très longue fosse qui fait 3,40 m de long, et les deux enfants sont tête contre tête. Et sur ces trois défunts, il y a des milliers de coquillages, des milliers de perles qui ont été façonnées dans l'ivoire de mammouth. Et elles étaient alignées. Donc, on peut penser qu'elles étaient cousues sur des vêtements, à la manière d'un plastron, en fait. C'était des vêtements très sophistiqués. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 3500 perles par individu. C'est absolument énorme.
Ouais.
Et puis, certains de ces trois individus ont des dents de canine qui ont été cousues le long des manches du haut, et aussi le long des jambes de pantalon. Et donc, on sait qu'ils avaient des vêtements probablement aussi sophistiqué que celui des Inuits.
Donc on est loin de la peau de bête, effectivement, avec
très, très
du style,
loin.
De la classe même,
absolument,
on pourrait dire.
Absolument.
Allez Sophie de Bonne, on poursuit avec vous cette journée au temps de la préhistoire.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour les hommes préhistoriques. Comment ça va? Je suis venu préparer à manger. Alors, c'est dur, hein? C'est toujours comme ça pendant la saison des pluies. C'est parfait.
Comme ses compagnons, Pedro utilise un morceau de silex pour découper la viande.
C'était le premier couteau. Le Saint Graal de l'âge de pierre. On a un outil tranchant qui permet de tout couper. On peut couper du bois, des os, des fibres, des peaux.
Sophie Debonne, L'âge de pierre, c'est un documentaire d'Arte en 2024, vous qui publiez aux éditions Erol une journée au temps de la préhistoire. L'âge de la pierre, ça commence quand d'ailleurs, ça termine quand? Parce que là, vous vous situez l'action à 18 000 ans.
C'est ça. Mais en fait, le paléolithique, ce qu'on appelle l'âge de la pierre, c'est le paléolithique, qui démarre avec les premiers outils il y a 3,3 millions d'années, avant même l'apparition du genre Homo.
Ouais.
Donc, ce sont les Australopithèques qui font les premiers outils. On ne sait pas lesquels, parce qu'il y a plusieurs espèces. Donc, c'est une histoire très longue, extrêmement longue. Et la période dont je parle, c'est vraiment la toute fin de la préhistoire, pour laquelle on a beaucoup plus d'informations.
Les technologies ont beaucoup changé, d'ailleurs, entre 3 millions d'années et 18 000 ans.
Disons que les outils qui se gardent pour ces périodes extrêmement anciennes, c'est la pierre. Mm-hmm. Ce sont des outils en pierre. Il est possible qu'ils aient eu des outils en bois, ou en os ou autre, mais bon, on n'en a pas. A priori, ils utilisaient principalement de la pierre.
Ouais.
Mais jusqu'à preuve du contraire, puisque je vous dis, on n'a pas d'objets en bois pour l'époque.
Alors, ces sociétés que vous situez là, dans votre histoire, hein, on le rappelle, encore dans le sud-ouest de la France, à l'automne, dans un petit campement d'une 60-70 personnes à peu près, est-ce que dans ce groupe humain, il y a une hiérarchie sociale déjà ou pas?
Alors, il n'y a pas de preuve directe de hiérarchie au paléolithique supérieur, mais par contre, on voit qu'il y a des traitements différents des individus, en particulier pour les sépultures. Déjà, pour toute l'Europe, on ne connaît qu'une centaine de sépultures pour 30 000 ans.
Et c'est pas beaucoup, hein?
C'est très très peu. Ouais. Extrêmement peu. Donc ça veut dire que déjà l'inhumation était réservée à certains individus et il y avait d'autres modes de traitement des corps des défunts, mais on ne sait pas.
Mmh.
Et par contre, parmi ces 100, on s'aperçoit qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes, que des nouveau-nés et des vieillards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le choix des inhumés.
Mmh.
Donc ça, c'est quand même étonnant. Mais si on regarde bien les tombes, on voit que tous, quasiment tous, sont accompagnés d'ocre rouge. Le corps a été enduit d'ocre rouge ou les vêtements.
Mmh.
Et par contre, il y a de la parure, mais c'est très variable. Il y a des individus qui ont presque rien, presque pas de parure. Et il y a des individus, mais magnifiquement ornés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces fameuses tombes à Songir, où il y a 3500 perles en ivoire, hein, sans compter tout le reste, hein, et des lances de plus de 2 mètres de long en ivoire. Donc, il y a visiblement quelque chose qui se passe. Alors, il y avait eu une hypothèse avancée dans les années 2000, début des années 2000, par Brian Hayden, un chercheur canadien, qui pensait qu'on pouvait peut-être envisager un système comme sur la côte nord-ouest des États-Unis, avec des familles puissantes qui contrôlent les points d'eau ou avec beaucoup de saumon. Ça, c'est dans son modèle. Et il disait peut-être qu'on pourrait envisager la même chose, c'est-à-dire des familles puissantes, en particulier dans les régions les plus giboyeuses, dans les régions les plus riches en ressources, comme dans le sud-ouest, justement. Mais moi, je n'irai pas jusque-là. Par contre, je pense qu'il y avait une certaine spécialisation dans la mesure où les gens se spécialisaient dans ce qu'ils faisaient de mieux. Hein, c'est comme pour un soufflet. Si vous savez faire le soufflet, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Si vous savez très bien tailler la pierre, si vous savez très bien dessiner des animaux, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre, c'est vous qui allez le faire. Donc j'imagine un système où tout le monde sait à peu près de faire tout, c'est-à-dire y a quand même des techniques de base que tout le monde connaît, et puis après une certaine spécialisation selon les compétences, et pas forcément selon le sexe ou selon l'âge.
Mais il y a quand même un statut social, avec ces vêtements-là que vous nous décrivez très particuliers, on peut imaginer qu'il y aurait eu quand même une élite.
Alors peut-être des gens qui avaient un statut particulier, mais pas forcément un pouvoir politique quelconque. Ça, on n'en sait rien, il n'y a pas de raison Pourquoi peut-être qu'il y avait des gens qui étaient considérés comme des sages. Là, dans mon récit, je fais intervenir les personnes âgées qui, dans la plupart des sociétés, sauf la nôtre, dirait-on, les personnes âgées ne sont pas du tout respectées. Mmh. Et donc, moi, j'imagine une société où les anciens, on voit la parole, c'est eux qui décident d'un certain nombre de choses.
Sophie de Bonne, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, vous racontez dans cette histoire qu'un voyageur vient régulièrement apporter des nouvelles d'autres campement. Cette figure du messager, c'est une invention littéraire ou c'est une réalité probable ?
Alors, c'est probable parce qu'on a des produits qui viennent de très loin. En particulier des coquillages qui ont voyagé sur des centaines de kilomètres. Mmh. Donc, soit ils ont voyagé, il y a quelqu'un effectivement qui est venu de très loin, soit ils se sont échangés de proche en proche, par voisins interposés. Ça, on ne sait pas. Mais c'est un peu un artifice narratif que j'utilise, en fait, parce que je voulais parler des mammouths, mais dans la région dont je parle, il n'y a pas de mammouths. Ouais. Donc il fallait que je fasse intervenir quelqu'un qui vient du Grand Nord, et donc qui arrive avec un morceau d'ivoire, qui a vu un troupeau de mammouths.
Et qu'il raconte.
Qui raconte. Et de même pour les sépultures, parce que la journée était déjà bien remplie. Donc je fais intervenir quelqu'un qui arrive et qui raconte donc une inhumation à laquelle il a assisté quelques temps avant.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et Blandine, qui vous demande « Pourquoi pensez-vous que les hommes fabriquent des silex et non les femmes ?» C'est pas ce que vous avez dit.
J'ai pas dit ça.
Non.
Pour moi, il n'y a aucune raison de penser que c'est forcément les hommes.
Ouais.
Non, j'ai pas dit ça. Alors, c'est vrai qu'ethnographiquement, dans 90% des cas, ce sont plutôt les hommes qui fabriquent des outils en pierre taillée, plutôt. Mm-hmm. Mais les femmes savent le faire, et il y a des sociétés où elles le font aussi bien que les hommes. Donc là, dans mon récit, c'est vrai que j'ai eu un peu tendance à penser que c'était plutôt les garçons qui faisaient ça, mm-hmm. mais je cite le cas de plus d'une fille ou deux qui s'initie et qui taille également.
On va écouter le message de Laurent.
Bonjour, je me demandais pourquoi n'avoir dit qu'échanger des femmes. Je pense qu'ils échangeaient de la génétique et que ça devait être des hommes comme des femmes. En tout cas, je l'espère. Merci, bonne journée.
J'ai dit ça parce que ça, c'est une influence de l'ethnographie. Et c'est vrai que dans la plupart des sociétés, c'est plutôt les femmes qu'on échange. Et là, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on fait des analyses de l'alimentation des gens, ça a été fait dans certains cas, alors plutôt au néolithique et au mésolithique, mais ça commence à se faire aussi pour le paléolithique, on se rend compte que quand on peut distinguer, avec ces techniques dont je parlais tout à l'heure, des isotopes, donc dans le collagène des os, ou dans les dents, on peut savoir ce que les gens ont mangé au cours de leur vie. Or, on s'aperçoit que dans certains cas, les populations côtières, les hommes sont locaux, ils ont toujours mangé des produits de la mer, et il y a des femmes qui ont commencé à manger des produits de la mer à l'âge adulte. Et donc, ça veut dire qu'elles ont passé leur enfance ailleurs,
à d'autres endroits,
dans l'intérieur des terres. Et là, ça veut dire qu'on est dans des sociétés à modèle patrilocal, c'est-à-dire que la femme rejoint le campement de son mari au moment où elle se marie.
Gilles demande comment se fait-il que sur une période de 20 000 ans, on ne trouve aucune trace d'une grande civilisation comme celle des Aztèques ou des Mayas ?
Ah ben ça vient bien après, mais même en Europe, quand vous regardez tout ce qui se passe en Europe après, à l'âge du bronze, ça vient bien après.
Pascal nous dit « J'ai découvert avec grand plaisir l'histoire de Hella, des enfants de la terre de Jean Hoel. J'aimerais connaître l'avis de votre invité sur la véracité du récit de cette auteure américaine et la réalité de terrain d'il y a 35 000 ans. »
Alors c'est Jean Hoel, oui, qui a fait un roman qui est très très bien documenté du point de vue archéologique, mais qui est déjà assez ancien, c'est plutôt les années 80. Mm-hmm. Donc elle s'est basée, quand elle a écrit cette saga, l'histoire de Hella, une jeune homo sapiens qui a été élevée par des néandertaliens, puis après il lui arrive des tas d'aventures. Elle s'est basée sur des connaissances d'il y a 30 ou 40 ans, ce qui était bien, pour l'époque c'était très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui ça devrait être un petit peu daté à mon avis.
Allez, dernière question, très vite, Marie, comment connaît-on le niveau de violence de cette société dont vous nous parlez il y a 18 000 ans ?
Alors, on a très peu d'exemples de violence. Mmh. En fait, des cas de massacre, on en a seulement à partir du Mésolithique, donc après, au moment du réchauffement. Et il y a vraiment quelques très rares cas de violence interindividuelle avec deux ou trois individus qui ont une vertèbre, un outil en silex, une arme en silex pointée dans la vertèbre. Mm-hmm. Mais c'est probablement des conflits individuels, d'ordre individuel. Il y avait une densité démographique très très faible. Donc on n'imagine pas qu'il y avait beaucoup de tensions et beaucoup de motifs de tension.
Merci beaucoup Sophie Daubonne d'être venue nous raconter cette journée au temps de la préhistoire. C'est l'objet de votre ouvrage publié aux éditions Erol. Merci beaucoup à vous.
Merci Mathieu.
Merci à Lucille Jourde-Moalic qui a préparé ce dossier, Vincent Désir à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.